And now for something completely different.
There it goes! See ya! Touchdown!
Sébastien Chavard.
Oui!
Accélère! Accélère!
Quel pied! Ah, quel pied! Oh, putain!
Campus Tour, it's in the game!
Wow, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission On se porte pas plus mal, troisième saison, notre rendez-vous sur le sport sur Radio Campus 99.5 FM, un lundi sur deux. Nous sommes le 8 novembre avec les habitués, hein, comme d'habitude.
La vieille garde, les voilà, grognards.
Je pense qu'on campe à ce rythme-là. Exactement, donc le trio Philippe, Gabriel et moi-même.
Bonsoir.
Comme d'habitude.
Salut à toutes et à tous.
Voilà. Au programme de l'émission de ce soir, on aura toujours notre fameux top et flop qui sera présenté par Philippe.
Ouais.
On aura un zoom où je présenterai le tout premier match de l'équipe de France de football. Personne n'était né, hein, je préviens de suite.
Même donc, pas Philippe
Non, j'étais né deux mois après.
Mais... Et l'équipe de France n'est pas née en 1998, il y a eu d'autres matchs avant.
C'était pas en 93 contre la Bulgarie, l'équipe de France.
En 82 contre l'Allemagne.
Il y en a eu pire que ça, croyez-moi. Et on pourra pas en parler aujourd'hui, mais il y en a eu pire que ça. On suivra avec une chronique sur la semaine européenne des clubs français qui... Ça devient une habitude, une invincibilité incroyable.
Ce sera une festival Gabriel. Des jeux de mots pourris, on a l'habitude.
Ça voilà. Va, j'ai pas été très inspiré.
À chaque fois que je vois ta feuille, ça me fait peur. Hein. on aura Seb qui viendra placer un coup de boule.
Il mettra un gros coup de boule.
Voilà, dans le racisme.
Le
racisme dans le foot. Et on finira par le quiz.
Le quiz éternel. Voilà.
Le quiz bidon, on va appeler ça comme ça.
Non, c'est le quiz dont les réponses seront plus tard dans l'année.
Ah,
exactement.
C'est
je vois, tu n'avais jamais fait, je crois, encore. Non,
on n'avait jamais fait ça.
C'est vrai.
On l'avait fait à la reprise de.
Oui, je crois que j'avais fait les deux premières, il me semble. Et puis on avait.
Le quiz, je me projette, en gros.
Ouais, c'est même plus le prochain.
Ouais, c'est des questions, tu t'attends pas forcément. Et encore là, ça va, j'étais gentil parce que, comme après, t'étais, on va dire, novice dans le domaine, je voulais pas balancer des trucs dans lesquels tu pouvais pas.
C'est un quiz Nostradamus, en fait.
Voilà.
Il faut être voyant.
Exactement. Du coup, ce soir, on enfile son maillot.
Et on aura Seb qui, à distance.
Pour les réponses.
Nous fera des, voilà, une bien pensée, sûr, hein. Et puis on les mettra. Il nous a mis deux, trois pensées.
Une bien pensée. Sûr.
Oui, voilà. Oui, c'est une pensée philosophique de
ça. D'accord.
Voilà. Donc du coup, on enfile son maillot, son short, et on ne se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est l'heure du top et flop.
Parfois, dans le sport, il y a des moments top.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas.
Et puis, il y a des moments un peu flop.
Ça y est, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Le top et le flop. Top et flop présenté par Philippe.
Merci beaucoup. Alors, top et flop, il y avait plein de choses que j'aurais pu mettre dans les tops et dans les flops. Hein. Dans les tops, j'aurais pu parler de Max Verstappen, par exemple, qui gagne le Grand Prix du Mexique. Mais en fait, je préférais rester sur la région.
Et vous avez bien raison.
Et on a bien raison, puisque de plus en plus, on part vers des hauteurs incroyables, mais on oublie qu'ici aussi, il y a du sport et du très bon sport. Alors, on commence avec le TVB. Qui a remporté un match à l'extérieur, 3-0 contre Tourcoing, et c'était à Tourcoing. Donc le TVB, premier du championnat de Ligue A, parce que ça s'appelle la Ligue A, de volleyball, et qui se prépare bien pour les Coupes d'Europe qui vont pas tarder à arriver.
C'est vrai,
dans la semaine d'ailleurs. Ouais.
Ils sont en la deuxième Coupe d'Europe, la Coupe de la CEV, il me semble.
CEV, ouais.
Ça... Pourquoi pas rêver comme il y a quelques années quand il avait gagné.
Tout est jouable et en plus c'est une belle équipe, le TVB. Ouais.
Petit indice pour Gabriel, il se pourrait qu'il ait de nouveau à répondre à cette question tout à l'heure.
Deuxième top pour moi du week-end, hein, les demoiselles du CTHB qui ont remporté un superbe match contre Fleury à Fleury.
Le derby.
26-23, Chambray qui se replace, 5e de la Ligue, la LBE.
Incroyable, je crois qu'elles étaient dernières à un moment,
elles étaient 8e avant la journée, ou 9e avant la journée, et là, remontent à la 5e place.
Avant d'entamer aussi les Coupes d'Europe.
Avant d'entamer
oui,
les Coupes
c'est
d'Europe.
Le week-end prochain, il me semble, contre les Norvégiens de Molde.
Oui,
vu.
Molde.
Voilà. Pardonnez-moi.
Ton Norvégien n'est pas très très au point.
Voilà.
Comme nous tous.
Oui.
Nous tous. Alors, dans les flops, c'est un grand terme de dire des flops parce que ça serait tiré sur l'ambulance quand même. Le premier, c'est le TMB, le Tour Métropole Basket, qui a perdu pour la première fois de la saison. Donc, un flop, voilà, on est sympa.
Fallait bien que ça, ils n'allaient pas rester invincibles.
Voilà, et ils ont perdu contre Vichy Clermont. 88-74, il reste troisième de la Pro B. Donc,
Vichy, ça me dit quelque chose.
Oui, notre envoyé spécial.
Notre envoyé spécial Julien. À Vichy. Ouais. Julien, si tu nous écoutes, voilà. On pense à toi.
On aurait dû l'envoyer dans une autre ville.
Ouais. D'ailleurs, petit indice, il se pourrait que Philippe, à son tour, ait de nouveau besoin de répondre à cette question tout à l'heure.
Ah. Et deuxième mini-flop, les Remparts, qui ont connu encore une fois la défaite. Ils ont eu une victoire et.
Quatre défaites, je regardais tout à l'heure. Ouais.
C'est pas pour cette année la montée, hein.
Déjà, quand on est pénalisé par la DNCG de 9 points, ça aide, ça va pas aider. Hein. Déjà, il faut essayer de se remettre à niveau et se sauver. Donc, je pense que ça va être une grosse opération sauvetage.
Attendez, Nîmes a bien eu moins 8 et avait failli monter en Ligue 1 une année quand même. Hein.
Oui, enfin, on rappelle que la Juve en série B avait pris au moins 72 000 points et avait fini premier. Hein, donc, oui, enfin, non, mais c'est vrai, ils avaient fini combien 15 points, un truc comme ça.
15 ou 15, on va
ils avaient fini premier en plus quoi, en série B, ouais. C'était impressionnant. Bah, après, ils avaient gardé les meilleurs joueurs.
Avaient été de série A dans une championnat de série B. Quoi, donc,
comme si le PSG débarquait en Ligue 2.
C'est ça. On pourrait leur enlever 15 points et finirait premier quand même.
C'est ça. Donc, défaite malheureusement 5-3 contre Neuilly et ils sont toujours derniers avec moins 6 points.
Du coup, il y a un risque de descente.
Il y a un risque de
pour l'instant, oui, ils sont vraiment pas bien.
Ah oui, d'accord. Ah oui.
Là, il faut, on espère que ça va s'améliorer. Bon, je pense que ça va s'améliorer. Ils vont quand même, c'est une équipe de qualité. Et le sportif ou la sportive du week-end, ben, la semaine ça va être compliqué, mais du week-end, ce serait une équipe sportive, le 15 de France féminin, qui a largement battu les Sud-Africaines 46-3. Cet essai marqué, les Sud-Africaines ont réussi à marquer à la 79e minute une pénalité pour pas finir Fanny. Et le prochain match pour l'équipe de France féminine, c'est samedi contre samedi ou dimanche samedi.
Samedi. Dimanche, ce sera l'équipe de France
l'équipe
masculine.
De France masculine contre la Géorgie. Et pour les filles, ce sera contre la Nouvelle-Zélande.
Bah, il va y avoir deux duels contre la Nouvelle-Zélande à moins d'un an de la Coupe du Monde. En Nouvelle-Zélande.
En Nouvelle-Zélande pour les femmes et
deux ans pour les hommes.
Qui affronteront la Nouvelle-Zélande aussi dans 15 jours.
Petit match, voilà.
Là, on va savoir vraiment le niveau de l'une et de l'autre équipe. Parce que là, surtout l'équipe de France féminine qui va avoir deux duels contre la Nouvelle-Zélande à un an de la Coupe du Monde. Là, on va voir si elles sont capables de rivaliser avec la meilleure équipe du monde, tout simplement.
Alors, pareil dans les flops, j'aurais pu également parler de Lyon, mais je me suis interdit de parler de Lyon.
En flop, on aurait pu parler de nous aussi.
On aurait pu parler des impacts de Tours qui ont connu deux défaites et on aurait pu parler de Cédric.
Ils sont inspirés
de l'Afrique du Sud en marquant un pénalty à la fin pour sauver l'honneur.
Bah, c'est ça, quoi. 46-3. Quoi. Donc, super, super nouvelle pour le 15 de France féminin. Et on leur souhaite évidemment que ça aille de plus en plus haut. Et pourquoi pas devenir championne du monde, ce serait cool.
Avant les hommes, ce serait fou.
Ce serait énorme. C'est incroyable, la première médaille.
Le doublé.
Oui, c'est vrai, parce qu'aux Jeux Olympiques, on n'a pas pu remporter de médaille d'or. C'est vrai que au rugby...
Médaille du rugby français, c'est les femmes qui l'apportent.
Une finale France-Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande, ça rappellerait peut-être...
Peut-être avec un effet de vengeance, parce que il y était le coup de pied. Hein. Les Anglais nous avaient bien. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. Voilà, c'est tout pour moi.
Merci Philippe pour ce top et flop. On va passer à la première pause musicale avec... alors je suppose que le groupe c'est Dropkick Murphys.
C'est ça.
Voilà, avec leur titre Warrior's Code. Nous sommes de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour l'émission sportive On se porte pas plus mal. Deuxième partie de cette émission avec le Zoom.
En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte.
Tout à fait,
même
tout à fait,
cela, je le précise, cela ne nous regarde pas.
Le Zoom.
Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots.
Sur Radio Campus Tour 99.5 FM.
Et on va partir, on va entamer la grande page foot, puisque mon collègue...
C'est une émission foot. Hein.
Oui, encore. Il va falloir, la prochaine fois, c'est zéro foot.
Et on fera
on dit
100%
ça tous les 15 jours.
100% rugby.
Pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas. Je vais raconter aujourd'hui les premiers pas de l'équipe de France, parce qu'effectivement, pour nous, l'équipe de France, on l'a découverte, pour moi, à la Coupe du Monde 98. Pour d'autres, certainement sur des grands événements, etc., ou des catastrophes, peut-être France-Bulgarie, hein, même, ou France-CFA.
Et après, c'était surtout l'Euro 96.
France-Afrique du Sud, pour ma part. Très bon souvenir.
Voilà. 2010
Non, un petit peu avant, mais le premier grand moment que j'ai connu.
Donc, il n'a pas voulu serrer la main du sélectionneur sud-africain, du coup, Domenech. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, du coup, comment a commencé cette histoire? Papy encore. Cédric va vous raconter.
Il faut savoir. J'aurais dû me dire, j'aurais pu mettre de la musique d'ambiance.
Musique d'ascenseur.
Au début du XXe siècle, le football commence son éveil sur le continent européen. Le football français, lui aussi, marche dans ces pas-là. Quelques clubs sont créés par-ci par-là, Châteauroux, Bordeaux, Amiens, Rennes ou même l'Olympique de Marseille. Et les Français découvrent ce sport, se jouant avec les pieds. Les Britanniques, pionniers dans le domaine, ont déjà des équipes professionnelles, comme on va vite le découvrir. Pourtant, dès la fin du 19e, des rencontres impliquant des sélections françaises sont organisées, notamment sous l'égide de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Pour aller plus vite, on va faire USFSA. Elle-même créée en 1887 par le Racing Club de France et le Stade français. Bon, à l'époque, elle n'avait pas le même nom, hein, USFCP, mais bon, on va pas y passer 15 ans. Voilà, l'association intègre d'autres disciplines en janvier 1889, non sans quelques râleurs indiscrets, et devient l'UFFSA dès lors. Elle ne comporte que 7 clubs en 1890, mais vers la fin de son existence, c'est près de 1700 clubs qui y sont affiliés. En 1895, une sélection de Paris, composé principalement de joueurs britanniques résidant à Paris, affronte notamment une sélection de clubs anglais. La sélection française, USFSA, dispute pendant 4 ans des matchs internationaux. Le premier face à la Belgique, qui sera battue 6-2, et après l'Angleterre amateur qui domine la Britannic Selection of Paris. Oui, parce que bon, sélection française, quand t'as que des Anglais qui jouent, c'est pas terrible. Donc les Anglais amateurs en plus, les battent à 4 fois.
On dirait une équipe internationale de rugby.
C'est un peu
c'est
ça.
C'est à peu près ça.
Ça a évidemment aucun sens, hein, puisque y a vraiment des Français qui se sont... qui sont ennuyés à aller voir des Anglais jouer contre des Anglais qui sont un peu plus forts qu'eux en 1900. Voilà. Lors du tournoi de football des Jeux Olympiques de 1900, justement, la sélection USFSA réquisitionne carrément le club français qui représente le pays. Voilà, c'est même pas une sélection des meilleurs joueurs, c'est le club français. Et le pire, c'est qu'ils glanent la médaille d'argent. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on demandait à un club de Régional 1 de jouer pour la France contre l'Angleterre.
Allez, Tour FC.
Voilà, au hasard.
Au hasard.
Voilà, l'USFSA, qui avait préféré jusque-là rester dans le pur amateurisme, n'avait pas voulu engager une sélection nationale, finira par baisser pavillon en 1904. Mais si l'USFSA dut se plier, ce n'est pas par plaisir, mais par l'avance de la fédération belge. L'équipe de France, qui a été donc amateur jusqu'en 1933, est demandée par Evans Copé, un mécène belge qui créa alors un challenge annuel entre la Belgique et la France, devant toujours se jouer à Bruxelles. Côté français, on accepte et on se prépare donc. Le premier match officiel de l'équipe de France se joue donc le 1er mai 1904 à Uccle, donc je ne sais pas comment ça se prononce en belge.
Il y a une époque où donc on était humiliés par les Belges.
Il n'y a pas que.
Ouais.
Dans la banlieue de la capitale, la sélection affrontera alors quelques équipes avant, histoire de se roder un peu. En mars, Southampton descend en France et inflige un joli 6-1 à l'équipe B. Voilà, l'équipe A, le lendemain, jouera et prendra un bon 11-0 par la sélection anglaise amateur. Puis le Corinthians FC, club anglais, hein, pas celui-là du Brésil, viendra lui aussi s'imposer 11-4 le mois suivant. Je pense qu'on part réellement en confiance avant le match.
Toujours 20 ans de retard.
Voilà. Tous les matchs sont joués au Parc des Princes, déjà créé en 1897, et le public était un petit peu présent. Et à Joinville, en mois de juin, au mois d'avril, l'équipe de France gagnera 6-3 contre une sélection étrangère qui vivait en France. Au 30 avril, les joueurs français sont appelés par voie de presse. Et à l'époque, il n'y a pas d'Instagram ou conférence de presse. Ils sont rassemblés au siège de l'USFSA à Paris et rejoignent la gare du Nord à 22h. Adrien Filez, l'un des attaquants, ralliera seul Bruxelles, puisqu'il est le seul provincial de l'équipe jouant pour l'US tourquenoise. Les frères Bilot, Charles et Georges, sont appelés en renfort suite à deux forfaits, ce qui fera 12 joueurs présents au match. Le trajet entre Paris et Bruxelles durera 10 heures, et c'est donc au petit matin qu'arriveront les Français quelques heures avant le match. Frais certainement.
Sans doute, ouais.
Je rappelle donc, on est en 1904, le TGV n'existe pas encore, et même si la date du match avait été fixée quelques semaines avant, tout a été fait à l'arrache. Arrivé à Bruxelles le matin du match, retour en France le soir même, puisque le 1er mai n'était pas férié en France, la participation est tout à fait bénévole, même pas rémunérée. L'USFSA n'a fourni que les maillots, mais rien d'autre. Et en plus, il fallait rendre les maillots à la fin du match.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 72 heures de récupération.
Voilà. Les Belges avaient prévu quand même un banquet après le match. Et il n'y avait pas de préparation de tactique et d'échauffement. Donc on ne peut pas dire que c'était des feignants.
C'était pourtant déjà la DTN à l'époque.
Parce que pour rester dans le pur amateurisme, dites-vous qu'un tirage au sort a été fait entre Jacques Davy et Émile Fontaine pour savoir qui jouerait, puisque c'était 11 contre 11, hein. Et ils étaient 12. Et finalement, le dernier, Émile Fontaine, a perdu le toss et il ne jouera plus jamais pour la France. Du coup, voilà.
Sur un coup de pièce. Quoi.
Exactement. Imaginez-vous que la prochaine fois, si vous êtes jeune et que vous avez tapé la balle en bas de chez vous, vous faites les équipes sans remplaçant, sans échauffement et que tu commences direct. Bah, finalement, on peut se souvenir que l'équipe de France, son premier match, a exactement commencé comme ça. Voilà, dans les mêmes conditions. Donc, ce France-Belgique est arbitré par le meilleur arbitre du moment, John Sikin. Et c'est aussi le troisième match international officiel en Europe continentale, après Autriche-Hongrie et Hongrie-Bohême, l'ancien nom de la Tchécoslovaquie. La France joue donc dans une formation classique à l'époque, hein, 2-3-5. Deux arrières, les deux demi-ailiers sont défensifs et tiennent les ailiers de l'adversaire. Davy est à mi-centre, oui vous avez perdu dans les termes, je suis désolé. Et enfin il y a les cinq attaquants, voilà les attaquants extérieurs, donc je suppose que c'est les ailiers d'aujourd'hui. Hein.
2-3-5.
Les intérieurs. Et le puissant centre qui est aussi le meneur du jeu. Oui, le 2-3-5, ça existe, c'est une tactique.
On dirait une compo de l'OM.
pour finir, la France a joué dans un maillot blanc avec les deux anneaux du logo de l'USFSA. Voilà, on y retrouvera cependant les couleurs françaises puisque le short était bleu et les chaussettes rouges. Ça va. Donc pas de coq pour le premier match de l'équipe de France, c'est normal. Hein. L'ami Pierre de Coubertin, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
L'important c'est de participer.
Voilà, étant donné que le coq pour lui n'était pas très valorisant à ses yeux, finira pourtant par être adopté en 1909 pour le maillot français, à l'initiative du comité français interfédéral qui représentait la France à la FIFA depuis un an. Voilà, faut imaginer quand même ce qu'ont ressenti les joueurs au moment de rentrer sur la pelouse. Ils ont été les 11 premiers joueurs à représenter l'équipe de France, sans se douter certainement à quel point aujourd'hui le football est ancré dans la société. Ouais. Voilà, pour eux, c'était juste un match entre potes, presque, si on va appeler ça comme ça.
Ça.
Voilà. Et sinon, le match. Bah écoutez, le match, la France déjà a gagné le toss, c'est pas mal. Elle choisit de jouer avec le soleil et le vent dans le dos. À la 7ème minute, le Belge Kérité ouvre le score. Mais 5 minutes plus tard, Louis Meynier égalise. Et une minute plus tard, c'est Royer qui donne l'avantage à l'équipe de France. Au final, il y aura un match nul, 3 partout.
Oui,
il n'y avait pas de prolongation de prévu. Et du coup, les équipes, à la base, c'était quand même pour un trophée. Et le trophée est partagé entre les deux équipes. Voilà. Je remercie d'avance Wikipédia d'avoir été présent au match à l'époque. Voilà. C'est donc par un match nul, 3 partout, que les Français valident leur premier match officiel. Donc des buts de Louis Meynier, Marius Royer et Gaston Cyprès, qui ont été les premiers buteurs de la sélection. Pour l'histoire, d'ailleurs, la France ne sera pas avare en première puisque dans le monde du foot, puisque 20 jours plus tard, elle crée la FIFA sous l'impulsion de Robert Guérin, qui est alors député de l'Association française de football et qui en deviendra le premier président. Fernand Canel, le premier capitaine de l'équipe de France, fera un compte-rendu de 3 lignes pour le journal Loto, seul journaliste sportif de l'époque qui deviendra l'équipe bien plus tard. Quant aux journaux locaux, ils qualifient de chanceux le nul accroché par la France et accusent directement leur gardien fautif sur les buts français.
Déjà, les Belges, ils avaient le seum.
Et c'est ce que j'ai marqué derrière. On voit que le seum belge ne date pas de 2018. Voilà. Derrière cela, les deux équipes ont tapé une troisième mi-temps dans deux lieux de la capitale, le Regina et au CAF de Maastricht.
Ah, j'aimerais bien les Français et les Belges, après la demi-finale, aller se taper une troisième mi-temps dans les rues de Saint-Pétersbourg.
Voilà. Pour la dernière petite anecdote, le dernier survivant de cette équipe de France sera Adrien Filez. Bah, bizarrement, c'est le mec qui jouait, qui était le seul provincial de l'équipe, qui décède déjà en 1965. Mmh. Il aura été un des plus sélectionnés des 11 premiers joueurs, avec 5 matchs seulement.
Il y avait
énormément de turnover. Et donc voilà, ce fut le dernier qui est presque déjà décédé il y a 55 ans. L'équipe de France d'ailleurs a plutôt bien commencé ses débuts, donc un match nul 3 partout. L'année suivante, deuxième match, une victoire contre la Suisse, 1-0. Et puis après, ils se sont fait dégommer, pour rester poli. Et ça restera jusqu'à quasiment le record, le 17-1 aux Jeux Olympiques. Je sais plus où c'était, mais face aux Danois. Voilà.
Ah, quand même.
À bientôt pour peut-être suite, une suite de
la
cette.
La suite du programme.
Voilà. Pour une suite peut-être sur cet
et
épisode.
Donc on aura appris une chose, c'est que le Sam belge existait. Et je crois que Sam, il a quelque chose à nous dire. Sam, est-ce que tu.
Au fait, les gars, je pose ça comme ça, mais. Quelqu'un des nouvelles de Nathalie Simon? Ah, ils l'ont oublié lors du dernier interview tourné à Dax? Pas de bol.
Merci Seb, c'était un truc qui était vachement utile.
Wow. C'est ça, c'est ça.
Ah, oui, quand tu m'as dit philosophique, tu mentais pas en fait.
Ah bah, c'est philosophique.
C'est ça, c'est ça.
Il y a une métaphore derrière.
Et t'as pas vu
la on va vous laisser la pause pour la trouver.
Deuxième pause musicale. Avec donc une chanson que visiblement nous apprécions tous les deux, Robert Parker. Donc pour ceux qui sont un peu tout ce qui est. Moi je qualifie un peu de synthwave finalement, c'est ça. Voilà, exactement. Et du coup, 85 Again, le nouveau titre. Enfin, un des titres de Robert Parker.
Screen and we'll have 80.
c'était tellement bien.
C'est tellement bon.
J'ai même pas écouté.
Oh, ça y est, désagréable.
Oh là là, déjà quoi. Oh là c'est, là. C'est un truc de vieux, c'est ça aussi.
Okay. Mais non, c'est
un
pas
truc
un truc
de vieux. Ça date. Ok, c'est marqué 85, mais Dieu n'est pas vieux. 85, si on est en 85, et ça date d'il y a, je crois, 2-3 ans.
Hein. Oui, c'est ça. Sinon, vous êtes toujours à l'écoute de On se fera pas plus mal. Hein.
Oui,
désolé d'être un peu chez nous, mais
ou
voilà.
Au café des sports.
Voilà, exactement. Allez, Robert, une petite dernière.
avec consommation, avec modération.
Avec si modération, du coup, d'ailleurs, ça va être le cas, puisqu'on part direction le foot. Et un indice UEFA qui ne fait que grimper, mesdames et messieurs. Nous sommes devant les Allemands, les Italiens, les Anglais. Et voilà. Ah non, pas les. Non, c'est que les.
C'est bien de dire non, ce qu'il y avait écrit sur mon papier
d'accord.
Avant que je le dise.
Voilà. Voilà. Bref, Gabriel, c'est à toi.
Vous me reconnaissez ?
Non, vous êtes qui ?
Je suis qui ? C'est moi, François le Français !
C'est moi, François le Français !
Achète un coq, mets un béret et soutiens la France !
Attends, Gabriel. On l'a perdu.
Il en a dit, j'en ai venu. Je suis François le Français. Bon, ma chronique décalée à la semaine prochaine.
C'est ça pour le dans 15 jours.
C'est du génie.
Ah, ça parle que de l'équipe, ça parle que des clubs français.
Que des clubs français.
Ah bon. Bravo Philippe.
Il va pas s'en mettre.
Ah bah oui, parce que
10 minutes avec je
parce
te rappelle.
Il faut soutenir les clubs français. Oui, parce que
si tu veux, tu me passes ton papier, tu rigoles et je fais comme toi quoi.
Ça va aller. Il faut prévenir à l'avance quand même.
Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que c'était pas Interville. Donc.
C'est vrai.
Donc, reprenons nos esprits. Et oui, parce qu'il y a eu une semaine de Coupe d'Europe. Encore une semaine réussie. On va y prendre goût. Hein. Une semaine sans défaite.
Moi, j'y crois, hein.
Pour les clubs français. on rêve. C'est ouais, parce que.
Nul, c'est bien.
Tout de suite à rabaisser. Ça a bien démarré mardi soir. Séville, Lille qui fait un exploit en Espagne.
J'y croyais pas.
Moi non plus. Hein. Ouais. 2-1. On a vu une magnifique équipe lilloise qui était en mode Ligue des Champions, on peut le dire. Parce que quand on regardait les matchs de Ligue 1, encore ce week-end, vous voyez qu'il y a une équipe en Ligue 1 et une équipe en Ligue des Champions. Et là, elle a vraiment haussé son niveau. C'était un match qui collectivement était réussi. Je me disais même que, franchement, sur l'ensemble du match, il est supérieur à Séville, mérite plus amplement sa victoire. Et Lille est deuxième de sa poule. Séville est dernier.
Ça, je pense qu'en fait, tout est calculé parce qu'on sait très bien que Séville, son amour, c'est l'Europa League.
Voilà.
Donc là, en fait, ils sont juste en train de se caler pour finir gentiment troisième. Ouais,
c'est pas
calculer.
Fait, hein, parce que ils sont quatrième et ils vont devoir au moins battre peut-être Wolfsburg et c'est pas fait.
Juste une question comme ça, est-ce que le quatrième est reversé dans la
non.
Ligue d'Europe
le troisième de Ligue des Champions est reversé en Ligue Europa et les troisièmes de Ligue Europa sont reversés. Par exemple, Marseille, pour l'instant, est en Conference League.
D'accord,
voilà.
Ouais.
Voilà. Okay. Donc Lille, c'est un exploit. Voilà. Alors, il y a eu aussi, heureusement, le pénalty non sifflé n'a pas porté préjudice à la victoire, parce que sinon ça aurait été encore un vol, ça aurait été l'erreur de l'année, il faut bien le dire.
Là, en tout cas, ça aurait été le 400 millionième épisode de La VAR, c'est pourri.
Oui, aussi. D'ailleurs, la VAR n'a servi à rien sur cette action.
L'idée de La VAR, c'est presque aussi intéressant que Dallas, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, les épisodes, ça se répète.
Putain.
Et donc je vais vous poser une simple question, vous me dites oui ou non, Lille est deuxième, est-ce que la qualif en huitième de finale est possible?
En un mot ou...
Oui,
ou
oui ou non.
Ça va être, sinon ça va être trop
vous
long.
Croyez
trop
oui long. Ou vous oui. Croyez non? Oui.
Non.
Non. Peut-être parce qu'il y aura encore ce déplacement à Wolfsburg à la
Il y a
dernière
Wolfsburg
journée.
À se cogner déjà. Et Wolfsburg, c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit.
Franchement, si Lille fait un exploit en Espagne et un exploit en Allemagne lors de la même campagne, franchement, chapeau.
Ah ben là, chapeau, oui.
Parce que l'Allemagne, bah oui, transition, puisque le lendemain, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Leipzig.
Il y a
de partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il faut retenir que Wijnaldum revient à un bon niveau? Est-ce qu'il faut retenir que Mbappé est plutôt pas mal malgré que Neymar était encore passé au travers?
Apparemment, il y a certaines actions, il est bien revenu défendre. J'ai pas vu le match, mais il avait l'air quand même d'avoir donné un peu.
Oui, il a fait son côté de la saison.
Et enfin, oui, c'est dommage.
Ta neutralité de journaliste, s'il te plaît. Je sais que tu es marseillais, tu parles des Parisiens,
non,
mais il faut être
neutre. Non, franchement, le Paris Saint-Germain...
Non, non, il a raison, il a raison.
Non, franchement, les 15 premières minutes, tu prends un but. Kimpembe, alors, je vais parler de Kimpembe, parce que pour moi, c'est une vraie interrogation dans cette équipe, même en équipe de France. Je veux dire, stop ou encore.
Il est repris
même en
2018, plus,
c'était une grande question.
C'était Umtiti qui jouait, d'ailleurs. d'ailleurs. Parce que, franchement... Tu prends un but sans défendre, ensuite tu provoques un pénalty. Heureusement que Donnarumma est là, parce que sinon, pour moi, le match est plié au bout de 15 minutes. Là, le Paris Saint-Germain donc, est deuxième. Normalement, ça devrait passer, quoique attention, parce que si, là, ils vont aller à City. S'ils s'en prennent une, t'as Bruges qui peut revenir derrière. Et derrière, le dernier match Paris-Bruges, même si c'est au Parc, c'est l'équipe qui est capable de se faire flipper pour rien. Donc,
c'est la spécialité en plein mois de décembre en plus.
Voilà.
Hein, donc,
en plus, c'est une équipe belge, donc on ne sait jamais. Franchement, attention.
Il faut se dire une chose, attention, Manchester City, bon, en championnat, c'est coup-ci, coup-ça pour le moment. C'est une équipe qui est capable de tout. Hein. Ils ne sont pas finalistes pour rien. Quoi,
voilà.
Et je pense que cette année, ils ont bien envie de l'accrocher, leur Coupe d'Europe.
Comme Paris, c'est le Paris-City, même combat en quelque sorte.
C'est ça.
Donc voilà, le Paris Saint-Germain pour l'instant est deuxième de sa poule. Normalement, bon, s'il n'y a pas d'accident, au pire, ils finiront deuxième et ça va passer. Mais voilà, moi je m'inquiète, est-ce que Paris est toujours un favori? Parce qu'avec le mercato qu'ils ont fait, on les mettait dans le favori. Mais là, quand on voit après 4 matchs, on se dit, le Bayern, c'est une machine qui écrase encore tout sur son passage. City... le niveau monte petit à petit. Il y a Liverpool qui est toujours là.
La Juve, je crois aussi, qui est 12 points.
La Juve, ouais.
La Juve, oui, mais.
Ils ont un groupe.
Mais la Juve, c'est surtout que quand vous voyez le championnat, est-ce qu'ils vont pas se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que je remonte à la 4ème place parce que je suis pas sûr de la gagner la Ligue des Champions.
Ils y arrivent déjà, on en reparlera après.
Voilà. Donc, voilà, Paris, c'est encore une interrogation. On verra. Pour l'instant, c'est pas brillant.
Quand on voit quand même le niveau des grands clubs espagnols, tu prends le Barça, Real, c'est l'année. Peut-être l'année ou jamais. Hein,
oui, c'est l'année ou jamais, mais il y a le Bayern qui écrase encore tout. Je veux dire, je vois le Bayern, je me dis. Attendez, est-ce qu'il y a une seule équipe en Europe qui est capable de rivaliser? Le Benfica, ils sont passés sous la machine. Le Barça, ils sont passés sous la machine.
Qui c'est qui leur a mis 5 buts? C'est Mönchengladbach, non?
Mönchengladbach.
Après, mais c'était un match de Coupe d'Allemagne.
Il n'y a que qui peut remettre.
Voilà, il n'y a que. Donc voilà, donc le Paris Saint-Germain, il faudra attendre. Et ensuite, il y a eu jeudi soir. Alors le jeudi soir, maintenant, celui qu'on appelait le jeudi noir, à chaque fois qu'il y avait une semaine de Coupe d'Europe, et depuis plusieurs semaines, c'est devenu le jeudi rose en quelque sorte, puisque d'abord Lyon, 3-0 contre le Sparta Prague. Donc Lyon, le Lyon de Ligue Europa n'a rien à voir avec le Lyon de la Ligue 1. Le Lyon de la Ligue 1, comment dire, c'est une équipe qui passe au travers d'à peu près tout. À peu près tout. Ouais. Et le Lyon en mode Coupe d'Europe, franchement, le Lyon, quand je les vois jouer en Coupe d'Europe, je me dis, c'est peut-être la meilleure équipe de France. Parce que si vous prenez.
Oui.
Parce que le Lyon en mode Coupe d'Europe, franchement, c'est un.
Ils ont tout gagné, de toute façon.
Oui, mais même, je les vois dans le jeu, je veux dire. Franchement, le Lyon, si le Lyon était en mode Coupe d'Europe, était le même en Ligue 1. Lyon serait pour moi devant le Paris Saint-Germain, objectivement. Parce que quand vous voyez les joueurs qu'ils ont, l'entraîneur qui Coupe d'Europe, justement, apporte quelque chose. Et franchement, je vois pas leurs défauts en Coupe d'Europe. J'ai pas vu de défauts dans cette équipe de Paqueta marche sur l'eau. La défense avec Boateng, vous avez un défenseur de calibre international. Le milieu de terrain, Aouar, Guimarães, je veux dire, vous pouvez faire tourner, vous aurez toujours des joueurs de haut niveau. Et il manque peut-être juste un buteur, puisque Dembélé n'est toujours pas revenu et on a certainement encore pour un moment, tout comme Reine Adélaïde. Mais mettez-leur un buteur en plus et je vois pas ce qui manque à cette équipe, franchement.
Moi, je rajouterais deux trucs. Bon, je crois que Toko Ekambi a marqué à chaque match d'Europa League déjà.
Oui, il y a Toko Ekambi. Il y a Slimani, oublié, il y a Slimani.
Le premier point que je voulais dire, c'est que du coup, ils n'ont pas un groupe énorme non plus. Donc, mais c'est bien d'en profiter parce qu'avant, en club français, on aurait galéré.
C'est surtout ça, ouais.
Et la troisième, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en Europa League, maintenant, c'est super important de finir premier puisque tu passes directement en huitième de finale.
Ils y sont d'ailleurs. Voilà, ils sont sûrs de finir premier de leur poulet, voilà, peut-être
en étant deuxième, tu fais un tour de...
Les barrages, un 16e, quoi. On va dire les 16e
de Ligue des Champions. Voilà. Donc, voilà, c'est...
Du coup, ça veut dire aussi que les Coupes d'Europe ne reviendront pour Lyon qu'en mars, pas fin février. Donc déjà aussi, ça peut donner deux matchs en moins, c'est pas négligeable.
C'est la fatigue en moins.
C'est pas négligeable. Ouais. Surtout juste avant de démarrer la Coupe d'Europe.
C'est des matchs pièges, quoi, c'est surtout ça.
Voilà.
Et après juste le groupe de Lyon dans lequel ils sont... C'est quand même pas des. Il y a des équipes qui sont correctes.
Oui.
Mais c'est pas. C'est on voit que c'est un peu.
C'est pas le tiers monde de. C'est
moi,
pas
je,
le...
suis, je suis un peu déçu c'est par les Rangers. Je m'attendais oui, à mieux à dire, mais voilà.
C'est vrai. Mais voilà, donc mais Lyon.
Après, il y a Prague. Donc Prague aussi, c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit, mais ils sont là, quoi.
Du coup, Lyon, alors, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais au début de l'année, je rappelle que c'était au coefficient UEFA, la première équipe, parce qu'on n'arrête pas de parler du coefficient UEFA, c'est ultra important, au coefficient UEFA, Lyon est la première équipe des 32 engagés en Ligue Europa. Là, après 4 matchs, ils sont déjà qualifiés. Ils ont montré qu'en Coupe d'Europe, c'est une équipe de niveau peut-être Ligue des Champions. Est-ce que Lyon n'est pas le favori, parce que pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup en Ligue Europa, Naples et Leicester par exemple sont en demi-teinte. Galatasaray, c'est pas si impressionnant que ça. Je vois pas d'équipe au-dessus de Lyon en Ligue
honnêtement,
Europa.
Honnêtement, je me méfierais. D'ailleurs, ça se voit à l'indice.
Peut-être le Bayer Leverkusen, peut-être. Ouais.
Ça se voit à l'indice UEFA. Je me méfierais quand même du coup des Hollandais qui ont l'air d'être de péter le feu cette saison.
Ah, oui.
Le PSV, même si là ils ont fait deux fois le mur contre Monaco. L'Ajax cartonne tout. Je crois que c'est Alkmaar qui est en tête de son groupe. Le PSV est deuxième et les deux autres qui sont Vitesse Arnhem et Feyenoord. Feyenoord est premier, Vitesse Arnhem deuxième de son groupe.
Je vais un peu me dépêcher, mais il y aura un petit truc sur les clubs hollandais parce que justement, je vais parler de l'émergence peut-être du foot français et hollandais peut-être dans les années à venir. À la place peut-être d'autres trucs.
Bah, la France,
du coup, merci pour la transition, parce que j'allais parler de Monaco, donc Monaco PSV 0-0. Bon, là ça va aller très vite, ce match était affreux, soporifique.
Mais ils sont premiers.
Ils sont premiers, puisque la Real Sociedad a fait un partout contre le Sturm, comme quoi il n'y a pas que les clubs français qui se ramassent. Et du coup, bon, ce match était indigne d'un match européen, 0-0. Vous pouvez simplement noter que bon, Monaco, ils ont fait leur exploit aux Pays-Bas et je pense que c'est bon. Donc là, ils sont premiers. Bon, s'ils font pas de bêtises...
Gagnent au prochain match contre la Real.
C'est justement ça.
C'est pas grave,
mais
moi j'y crois.
Même s'ils ne font pas de bêtises en Autriche au dernier match, au pire, ils seront deuxième. Donc bon, on peut peut-être déjà dire que Monaco sera certainement là au printemps. De toute façon, au pire, ils seront troisième. Mais bon, ils seront là au printemps, ça c'est sûr. Donc Monaco sera qualifié malgré un jeu pauvre. Malgré aussi qu'en championnat, ils sont un peu à la rue comme Lyon. Et c'est pour ça que si deux matchs en moins au mois de février, ça pourrait aussi les intéresser. Ensuite, donc, Marseille. Donc là, c'est un petit peu le point noir, j'ai envie de dire. Alors, le point noir, si vous regardez le match, il y a deux partout. Marseille-Lazio, c'était un super match.
Ils ne sont pas payés, hein, c'est ça, je crois, les Marseillais qui mériteraient mieux sur quatre matchs en vrai, c'est ça.
Oui, parce que bon, Lokomotiv, franchement, c'est un match de Coupe d'Europe de club français. Ils ont dominé tout le match et sur une erreur bête, ils prennent un but. Ensuite, contre Galatasaray, bon, c'était un peu le feu, du coup, ça s'est neutralisé. Et l'aller-retour contre la Lazio, désolé, Marseille est meilleur. Alors, tu pouvais dire le match aller. C'était trois jours avant le PSG, peut-être qu'ils avaient déjà la tête au Classico. Là, ils devaient le gagner, malheureusement. Alors, Payet sauve un peu à la fin en mettant ce but. Déjà, l'angle avec lequel il le met, j'ai pas vu comment ils l'ont fait. Oui, mais comme Philippe a pris 4 minutes d'avance, je me suis dit, allez, 4 minutes
on
de plus.
Pas vraiment les 4 minutes, là. C'est ça le truc.
Donc voilà, donc Marseille, juste troisième de sa poule. Est-ce que c'est... Faudra faire un exploit en Turquie, ça c'est sûr.
De toute façon, ils sont obligés de gagner les deux derniers, là, si réellement ils veulent passer. Hein.
Ouais, est-ce que Marseille sera-t-il en 8e, oui ou non ?
Non.
Enfin, en 2e, en 16e ou en 2e au moins, oui ou non ?
Non. Pas pour moi.
3e ?
3e.
3e ?
3e, c'est jouable, mais 2e, ça risque d'être chaud, quoi.
Ils feront la Conference League, voilà.
Je pense que pour commencer, il faut commencer. Certes, c'est pas la Coupe d'Europe qui fait rêver tout le monde, mais.
Non, mais franchement, en France, est-ce qu'on a une Coupe d'Europe ? On a le droit de juger les Coupes d'Europe, franchement,
non.
En France. Non.
Très clairement, non. Mais non. Sauf que, voilà, on en a beaucoup rigolé au départ, quand tu vois la gueule des équipes. Je pense que Marseille, il ferait mieux de prendre de la confiance, surtout dans les compétitions comme ça, avec les petites Coupes d'Europe. Et derrière, ça peut construire quelque chose sur le long terme.
Voilà, et justement, conférence, puisque c'était le tout dernier match, Rennes a battu Murat 1-0. Bon, c'était Murat. Rennes était au-dessus, on va le dire, même si voilà, ils ont géré 1-0 à l'aller, ils avaient gagné 2-1 en Slovénie, c'est des matchs qu'ils ont gérés, mais ils restent premiers, devant le Vitesse, devant Tottenham. Franchement, quand on voit Tottenham dans la situation dans laquelle ils sont, quand on voit la Roma qui a pas battu les Norvégiens d'ailleurs, oui, encore en match retour, ils ont fait 2-2. On disait c'était les deux seules équipes qui se détachaient des autres, et on se dit, franchement Rennes, je vois la Ligue 1. Depuis, ils ont eu un trou d'air au début là.
Ils sont intéressants à suivre.
Ça marche quand même. Ils ont marché sur Paris, sur Lyon, voilà. Là, en Coupe d'Europe, ils sont premiers et ils produisent aussi un jeu exceptionnel. Ils avaient un public derrière qui est quand même bouillant. Voilà, là on parlait de la conférence, Philippe disait c'est pas une compétition, oui, mais si par exemple...
Mais Rennes c'est pas un club de Coupe d'Europe,
oui,
à la base,
mais justement si par exemple en mai prochain vous avez Rennes qui se retrouve, je sais pas, en quart ou en demi, bah, peut-être que les autres clubs français se diront, bon bah si Rennes peut aller très loin, des clubs comme Marseille peuvent la gagner totalement, et Rennes peut aussi aller au bout, parce que franchement il n'y a pas d'équipe si... qui se détache.
Je crois qu'il y a une dernière nouvelle de Seb du côté de Marseille qui a découvert quelque chose.
Je viens de voir à l'instant sur le compte Twitter de But Marseille, ça y est les gars, Mario Jardel est arrivé à la commanderie.
Donc ah ça c'est une référence pour tous les plus
vieux.
C'est
de la philosophie.
Hein.
Donc voilà, encore une belle semaine. La France est troisième au coefficient UEFA de cette année derrière l'Angleterre et les Pays-Bas premiers.
Incroyable.
17 matchs sans défaite pour les clubs français, série en cours. Donc,
à noter d'ailleurs que notre indice UEFA actuellement est meilleur que l'année dernière.
Est meilleur que l'année dernière, parce que ça a seulement pris 4 matchs.
4 journées sans
du coup, la France peut se dire si, voilà. Donc, alors, Pays-Bas, France en émergence. Les Portugais, eux, vont peut-être, ça se trouve, plutôt que de lorgner la France, déjà commencer peut-être par regarder, parce que l'an prochain, ils seront peut-être à égalité avec
les Hollandais. Regardez là, actuellement, nous, rien qu'avec les Pays-Bas, on serait à 2 points devant eux au début de l'année prochaine seulement.
Oui, mais les Pays-Bas peuvent doubler les Portugais l'an prochain. Et justement, voilà, le foot français-hollandais est-il en train de
moi, ce que j'aime
monter,
actuellement, c'est que du coup, tu as français, portugais et hollandais, donc qui sont les 5, 6, 7, qui sont réellement présents cette année.
Oui, c'est vrai.
Et peut-être un peu moins les 4 de devant. Donc,
L'Angleterre, pour moi, va rester premier.
Oui,
et pour moi, je pense qu'on a pour longtemps à la première place.
Bah, l'Espagne, c'est possible que ça se casse un peu les dents.
Oui,
mais
l'Espagne, ça, pour moi, c'est l'Espagne qui fait le plus peur, parce que l'Allemagne, bon, ils auront toujours le Bayern pour
gérer. Et l'Italie.
Et l'Italie, bon, globalement, même s'ils gagnent plus rien en Coupe d'Europe,
je les mettrai au même niveau que l'Espagne.
Voilà. Et l'Italie, franchement, la France, les Pays-Bas.
Faut voir.
Maintenant, c'est sur du long terme. Sur du long terme. Et franchement, les Pays-Bas. Franchement, j'ai vu jouer l'Ajax 4 fois. Franchement, c'est meilleur que.
Que beaucoup.
Que beaucoup. Pour moi, c'est un outsider sérieux.
C'est un gros outsider, ouais.
Et ça serait dingue. Ajax qui gagne la Ligue des Champions. Allez, Lyon qui gagne l'Europa League. Et Rennes qui gagne la conférence ou Marseille. Allez.
Si c'est ces trois-là qui gagnent, je promets de courir, je sais pas où, mais.
Nu devant la radio.
Non, peut-être pas. Non, on va délocaliser la radio à Amsterdam.
Ouais, comme par hasard.
J'y suis jamais allé. Ah oui, d'accord.
On va s'arrêter là.
Avec modération.
Pour pas déborder. du coup, troisième musique proposée.
Très, très courte.
Exactement.
Ça dure moins de 2 minutes.
Ah, vous avez anticipé ma chronique?
Oui.
Pas du tout, mais elle a duré 16 à 17 minutes. Mais
alors
moi, j'avais
c'était
anticipé.
C'était 10 au départ, mais bon, on a parlé aussi.
C'est vrai.
Allez, la suite, c'est.
Eh ben, c'est The Box Top. J'allais inverser le T avec The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When
she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, grab a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just don't put me a letter. My baby just don't put me a letter.
Parler aussi en direct. Hein.
Bah écoute, alors moi, la dernière fois, les gars, j'ai découvert ça, c'est vraiment incroyable. Ah, alors, bienvenue. Non, non, on avait anticipé
l'allumage de micro parce qu'il y en a qui n'écoutaient pas. On se demande qui c'est.
Dernière partie de cette émission dans On ne se porte pas plus mal sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Nous allons commencer par le coup de boule.
On va mettre le coup de boule.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Voilà, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après demain, j'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis.
Coup de boule, c'est ta mille.
Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches. Hein.
Christophe Furios, ce grand poète.
Exactement. Un coup de boule qui va taper là où ça doit faire mal, le racisme dans le foot. On t'écoute, Seb.
Salut l'équipe, on se porte pas plus mal, c'est Seb. Je reviens dans cette chronique sur un fait divers survenu dimanche 31 octobre dans le Cher et qui concerne tout à la fois le sport, ses mots et plus largement les mots de notre société. Dimanche 31 octobre à Vierzon avait lieu une rencontre de foot départementale entre Chaillot, club vierzonais, et l'ES Justice de Bourges. À la 40e minute de jeu, après un tacle d'un joueur berruyé sur un joueur vierzonais, des cris de singe émanent de deux individus derrière la main courante. Le capitaine berruyé prévient l'arbitre central qui arrête aussitôt le match qui ne reprendra pas et est définitivement arrêté suite à cette manifestation de racisme. Rappelons que l'expression de propos racistes en France est un délit dans l'espace public et dans un stade de football donc où, heureusement, elle est sanctionnable et n'y a évidemment pas sa place. Gérard Potier, président du club berruyé, explique dans la presse locale, le Berry Républicain du 3 novembre, qu'en 50 ans à la tête du club, il n'a jamais vu ça. Il explique être anéanti. Le président du club vierzonais, Michel Courreau, absent le jour du match, mais auquel des membres du club ont rapporté les faits, a expliqué qu'il démissionnerait si les faits étaient avérés, car lui aussi d'y être consterné par ces faits. La commission de discipline devait se réunir après ce fait divers, sachant que le club des justices n'a pas porté plainte, souhaitant que l'affaire se règle en interne au foot départemental et ne pas enfoncer le club de Chaillot. Patrick Terminé expliquait le 4 novembre, dans le Berry Républicain toujours, il est responsable de la commission de discipline, que cette commission avait besoin de 4 semaines pour investiguer de manière complète sur cet incident. Viendra ensuite le temps du délibéré, ce qui nous emmène à la mi-janvier pour connaître le dénouement administratif de cette affaire. En tout cas, saluons la réaction du capitaine Berruyé et du corps arbitral qui n'a pas hésité à arrêter le match. Certes, nous sommes au niveau départemental, les enjeux sont moindres, car nous connaissons tous les enjeux terriblement cyniques qui ont mille fois pollué de vraies sanctions contre le racisme dans le foot de haut niveau, mais les arbitres ici ont bien agi. Oui, un match de foot doit pouvoir se tenir sans que l'on entende des propos racistes, xénophobes, antisémites ou homophobes. Les tribunes d'un stade de foot ne sont pas un défouloir et le foot n'est pas l'unique lieu où cela se passe. Les tribunes sont un reflet des mots qui polluent le débat public. À ce sujet d'ailleurs, la rencontre entre Marseille et la Lazio de Rome en Europa League la semaine dernière a fait l'objet d'un arrêté du ministère de l'Intérieur français qui a interdit à tous les supporters visiteurs, donc Laziales, de se rendre au stade Vélodrome de Marseille. L'arrêté a été vivement critiqué par les groupes ultra de la Lazio, dont le groupe Lazio et Libertà, ça veut dire Lazio et Liberté, dont je voudrais parler car leur combat est courageux. Ce groupe de supporters, qui a quelques années seulement, s'est constitué autour des valeurs de solidarité et d'antiracisme et d'un amour commun pour la Lazio de Rome. Ce groupe ultra a le mérite à chaque match de sortir drapeau et banderole rappelant ses valeurs dans un stade où, oui, une poignée très dure et très active d'ultra se distingue depuis des décennies maintenant par des provocations racistes et un militantisme affiché pour l'extrême droite italienne. Toutefois, ce groupe ultra rappelle que rien n'est ou tout blanc ou tout noir, et qu'il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Or, en interdisant la venue des supporters laziali, c'est précisément ce qu'il s'est passé, et le groupe a sorti un communiqué où il déplore cette décision, renvoyant surtout à l'incapacité des autorités, qu'elles soient italiennes ou françaises, à gérer les déplacements de supporters et à véritablement sanctionner les auteurs de violences dans les stades. Si une vraie politique mûrement réfléchie était mise en place, il n'y aurait plus de haine dans les tribunes laziali et partout ailleurs, et les ultras de la Lazio, et notamment ceux de Lazio et Libertà, qui viennent au stade par amour pour le foot et leur club, auraient pu venir à Marseille.
C'est compliqué encore ces histoires, mais bon.
Que dire ? Bah, simplement que le racisme n'a rien à foutre dans les stades, dans le sport, ou même dans la vie de tous les jours. Toute forme de discrimination n'a rien à foutre là, et il faut... Si vous êtes victime, si vous êtes témoin de choses racistes, bah, il y a des autorités. Il faut dénoncer aux autorités parce que c'est comme ça qu'on pourra lutter.
Et on voit que ça touche pas du coup que le haut niveau. Ça va aussi dans les plus bas échelons du football, ouais, du football
c'est ça.
En général.
Voilà. Merci Seb.
Voilà, on va quand même essayer de finir sur une note un petit peu plus joyeuse, oui, en commençant notre quiz. Ah.
23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Ça, c'est ce que Cédric nous dit à chaque fois à la fin d'un quiz.
Ouais, non, c'est quoi cette légende de je gagne tout le temps? J'ai perdu des fois.
Des fois.
Des fois. La fausse modestie.
Non, franchement, je pense que depuis que je suis joueur dans les quiz, j'en ai plus perdu que gagné quand même. Hein, donc, bon.
Alors, on précise, donc toi, tu vas, Cédric va poser des questions.
Ah, c'est...
Une question chacun, mais c'est un peu sur les trucs d'actualité. Et je crois qu'il y a Seb, c'est ça.
Et Seb a également enregistré des réponses. Il ne connaissait absolument pas les questions. Donc les réponses seront, voilà, donc ça risque d'être du gros n'importe
comme
quoi.
Comme la dernière fois.
Le but du jeu, c'est qu'à un moment, Seb, il arrivera à nous donner les bonnes réponses sans connaître les questions.
Et là, on pourra l'appeler Dieu.
Et on pourra l'appeler Dieu.
On va commencer par le plus jeune, par du rugby. Ouais. Donc ce week-end, il y a eu France-Argentine. Est-ce que, du coup, tu as suivi un petit peu ou...
Oui, j'ai regardé.
Donc la vraie question, c'est, peut-on faire, est-ce que cette tournée automnale, on peut rester invaincu sur cette tournée automnale, sachant qu'évidemment, il reste la Géorgie dimanche prochain. Et les l'ogre, la bête noire néo-zélandaise, le samedi d'après. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut finir invaincu?
J'ai envie de dire oui, parce que pour une seule raison, c'est que quand justement c'est une tournée amicale, l'équipe de France, même l'équipe de France en général, c'est là où elles arrivent à battre le gros. Ils arrivent à battre la grosse équipe, ils arrivent à se pousser. C'est, justement, dans les compétitions, c'est plus compliqué. Donc moi, j'ai envie de dire oui. Et puis franchement, l'équipe de France, c'est possible. Bon, c'est possible. Même contre la Nouvelle-Zélande, ils sont capables de gagner.
Ok. Philippe.
C'est un quiz où il n'y a pas vraiment de gagnant. Hein.
Je précise, oui, il n'y a pas de gagnant. Hein.
Bah, voilà, par exemple, j'aurai un point si l'équipe de France reste invaincue.
Donc ça, tu le sauras dans 15 jours, en fait.
Bah,
tu auras les réponses. Ouais.
Bah, alors là, ta question, tu vas attendre la fin d'année. question basket. Tu en as parlé donc tout à l'heure. Ah, bah, le d'accord. Tour Métropole Basket s'est incliné pour la première fois de la saison. Donc pour l'instant, 3 victoires, 1 défaite. Mm-hmm. On rappelle que donc, la Pro B, c'est 16 équipes. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc, du basket tourangeau cette saison? Est-ce qu'on peut attendre de nouveau une nouvelle promotion, un maintien ou une relégation?
Je pense que dans l'immédiat, ils visent le maintien. Comme c'est un peu le vieux leitmotiv de Giroud. D'abord, on vise le maintien.
Pour les promus, ce serait juste.
ce serait logique pour un promu. Et ouais, puis après, s'il y a un moyen de gratter un bonus, bah, le bonus, c'est de monter. Hein. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a une bonne équipe. Ça a l'air de bien tourner pour le moment. Bon, la saison est toute jeune, donc il va y avoir des moments peut-être un peu plus durs, mais pour le moment...
Déjà pensé à une nouvelle salle avant de monter,
ouais,
quand même. Parce que de toute façon, même si tu montes, on t'acceptera pas avec 1500 places. Hein.
C'est vrai. Question volée. On retourne chez Gabriel. Le TBB, on en a parlé tout à l'heure. 6 succès en 6 matchs en championnat. Est-ce que le TBB est le grand favori de cette saison française? Est-ce qu'ils peuvent réaliser même le doublé cette saison?
Bah, comme la plupart des années, hein, j'ai envie de dire.
Sauf l'année dernière,
je crois. Oui, sauf. Depuis 2-3 ans, c'était un peu plus compliqué. Évidemment, ils peuvent gagner, ils peuvent être champions de France encore une fois, ils peuvent même faire le doublé. Bon, après, peut-être le doublé, la Coupe de France, généralement, c'est des surprises, généralement, en volée, c'est pas comme le championnat. Mais peut-être un doublé, peut-être championnat, Coupe d'Europe, je ne sais pas, mais oui.
Ah, la Coupe d'Europe, on prend.
C'est qui peut-être...
Oui, c'est vrai.
J'y étais, et pas loin, il y avait le chien de Belmondo même.
Non, c'est toujours pas ça. C'était pas la bonne réponse, elle. C'est dommage.
Question foot.
C'est pas une question sur les concours canins, sinon.
Ah ben là, il était dedans.
Question foot pour Philippe. Ça parle justement des clubs français en Coupe d'Europe. Ah. Décidément, on en a parlé. Ouais. On disait donc 24 matchs, 12 victoires, 11 nuls et une défaite seulement. Merci les Lillois. En vrai, franchement, c'est un bon résultat. Je charrie un peu. Pour une fois que c'est Lille et pas l'OM.
Voilà. Oh
Est-ce que la mentalité des... La question, hein. Est-ce que la mentalité des entraîneurs de ces clubs français a changé quelque chose? Alors, vous avez peut-être la réponse de Seb d'abord, à la limite.
Oui, je pense que Seb, il a un truc.
Je l'ai lu sur la page Facebook de Foot Transfert. Uh-huh. Waro revient au PSG, les gars.
D'accord, donc en fait ça a rien
c'est
à
une question foot.
C'est une question foot. Il n'était pas loin.
Guillaume Haro, quel souvenir.
Alors est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a une mentalité
Nico Kovac, Peter Bose, des trucs comme ça.
Je pense qu'arrive un moment, il faut se dire une chose, c'est que les grands championnats, ils n'hésitent pas prendre des entraîneurs étrangers pour apporter une autre vision des choses. Et en France, on a cette tendance, c'est qu'on sait faire, pourquoi on va aller chercher ailleurs? Et on voit ce que ça donne. Quoi. Le problème, il est là. Quoi. Le dernier grand entraîneur français à avoir mené une équipe loin, outre Deschamps, parce que Deschamps avec Monaco, et ça, on peut discuter si Monaco fait partie du championnat.
C'est
français.
Genesio.
Il y a eu Genesio, ouais.
J'en dis Wenger.
Genesio qui est encore là. Mais à Rennes.
Ça serait Giroud, ça serait Giroud. Aussi Jean-Claude Ciudo.
Claude
Puel, ouais.
Qui a emmené en demi-finale Lyon.
C'est vrai, à l'époque, où il était encore crédible. Avant que
oui, leur point commun, mais c'est qu'à part Genesio, mais aucun ne sont français, en fait. C'est
Je pense que de plus en plus, ça va être une mouvance. Regarde, en Angleterre, tu as de plus en plus de ça. Et on voit, les succès, ils sont là. Hein. Jürgen Klopp, il sort d'où
Pas toujours.
Pas toujours, mais...
Prenez Mitchell à Marseille. On a voulu essayer...
On peut aussi aller chercher le Unai machin, là, celui qui était à Arsenal. Il était au PSG à l'époque.
Oui, Unai Emery.
Mais tu prends Tuchel, par exemple, ouais.
Mais Paris, en fait, c'est un club qui forme les entraîneurs à gagner la Ligue des Champions, c'est ça.
Alors Antoine Comboiré, il a toutes ses chances.
On retourne pour la dernière question chez Gabriel. Ouais. Une question foot. Ouais. Genesio qui met 4-1 son ancien employeur, t'appelles ça comment? Petite réponse de Seb.
Il a eu une panne de motoculteur. Après la panne de bétonnière la semaine dernière, pas de bol.
C'était pour Olas, je pense.
C'était pour Olas, je crois.
Tu peux répéter juste...
Donc Genesio qui met 4-1 à son ancien employeur hier soir, t'appelles ça comment?
Une revanche. Une belle revanche.
On va mettre Florian Maurice dans l'histoire aussi, hein, puisqu'il a changé de crémier.
C'est vrai. Ouais. Comment j'appelle ça? Eh bien, une bonne tarte dans la gueule à Jean-Michel Aulas. Ouais. La prochaine fois, quand il voudra écouter ses supporters, il faut écouter ses supporters, mais qui regarde... Pas forcément, mais il faut aussi les écouter... qui regarde avant ce qu'a fait son entraîneur, parce qu'un entraîneur qui t'amène en demi-finale de Ligue Europa, qui a permis à Lyon, à Aulas, de pouvoir dire que Lyon est la seule équipe à battre Paris, et surtout des deuxièmes deux, trois fois même, tu regarderas la prochaine fois.
Dernière question vite fait pour Philippe au tennis. Ouais. La Lever Cup 2021 tournée au massacre. Les Européens ont gagné 14-1 contre l'équipe mondiale. Je voulais savoir, on est d'accord, hein, la France au tennis à le niveau de l'équipe mondiale, non?
Attends.
Manchester United, ça va se terminer avec un entraîneur irlandais de 45 ans sur le banc. Ça sentira la sueur et les soufflantes dans le vestiaire.
Je crois que c'est ça que le tennis français a besoin.
C'est Roy Keane, ça, non?
C'est Roy Keane, tu vois.
Ah oui, le tennis.
Donc je pense que ouais, le tennis, ouais.
Ils s'appellent Genesio.
Ah, puis un petit tac, ça faisait longtemps.
Et un petit tac au tennis français, ça fait toujours plaisir.
Voilà. Quiz quiz et l'émission sont enfin terminées. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je siffle donc le coup de sifflet final. On vous remercie d'avoir été des nôtres.
Le vainqueur du quiz dans 7 mois.
Retenez bien les questions. Merci donc Philippe et Gabriel d'avoir participé à l'émission. Merci Seb d'avoir enregistré sa petite chronique et les réponses.
Et les réponses complètement voilà. À côté de la plaque.
De la exactement. Philosophie, comme dit Philippe.
Ah, exactement. On pourra bientôt retrouver cette émission en podcast, certainement. Sur le site internet de Radio Campus Tour, restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes. Yep. Nous, on se retrouve le lundi 22 novembre en direct pour encore plus de sport et déconne. D'ici là, portez-vous bien.
J'aurai mon premier point du quiz, j'espère.
Voilà. À bientôt.
Au revoir.
Salut.
Campus Tour, it's in the game.